Chapitre 22. Mort de Néotrantor. Néotrantor. Rebaptisé Néotrantor après le grand pillage, cette petite planète jadis appelée Délica demeura pendant près d'un siècle le siège de la dernière dynastie du Premier Empire. Capitale fantôme d'un empire qui ne l'était pas moins, son existence n'a d'intérêt que du strict point de vue légal. Sous la première dynastie néo-trantorienne. Encyclopédia Galactica. Néo-Trantor. La nouvelle Trantor. La ressemblance du modèle avec l'original se limitait pourtant à cela. Un nom. À deux parsecs de là, le soleil de l'ancienne Trantor continuait à briller comme si de rien n'était, et la planète qui, au siècle précédent, était encore la capitale de l'Empire, continuait à fendre l'espace, imperturbable, poursuivant inlassablement son orbite autour de ce même soleil. L'ancienne Trantor était même encore habitée. Peu à vrai dire. 100 millions d'hommes y vivaient peut-être là où 50 ans auparavant, il y en avait eu jusqu'à 40 milliards. L'immense monde de métal n'était plus que débris épars. Les multitours titanesques de cette mégalopole si démesurée que ses fondations de métal avaient fini par recouvrir toute la planète se dressaient désormais vides, méconnaissables, réduites à l'état de ruines misérables. Elles portaient toujours, comme au lendemain de la bataille, les impacts atomiques, les coulées de métal en fusion qui les défiguraient depuis les heures terribles du grand pillage, 40 ans auparavant. Comme il était étrange de penser qu'un monde qui avait été le centre de la galaxie pendant 2000 ans, qui avait régné sur un espace sans limite et avait abrité des législateurs et des gouvernants dont les caprices avaient eu force de loi à plusieurs parsecs à la ronde, pût disparaître ainsi, en moins d'un mois. Comme il était étrange de penser qu'un monde qui avait toujours été épargné non seulement par les vagues massives de colonisation et de décolonisation, qui s'était succédé pendant plus d'un millénaire, mais aussi par les guerres civiles et les révolutions de palais qui s'étaient à leur tour succédées durant le millénaire suivant, put finir ainsi. Un cadavre en décomposition. Voilà tout ce qui restait désormais de la gloire et de la fierté de toute une galaxie. Quel destin pitoyable! Car il faudrait encore des siècles avant que l'œuvre titanesque de 50 générations d'êtres humains tombe définitivement en poussière. Seuls les pouvoirs déclinants des hommes eux-mêmes les rendaient aujourd'hui inutiles. Des milliards d'hommes avaient trouvé la mort. Les quelques millions qui avaient survécu avaient alors déchiré méthodiquement le socle de métal luisant qui recouvrait le sol de la planète, exposant ainsi aux rayons du soleil une terre qui était demeurée dans l'obscurité durant plus de 1000 années. Pour ces hommes, encore entourés par 1001 merveilles mécaniques, fruits de l'effort humain, et par les innombrables prodiges industriels d'une humanité qui avait cru pouvoir s'affranchir définitivement de la tyrannie du milieu environnant, ce fut le retour à la terre. Dans les grandes clairières où se croisaient jadis les voies de communication, poussait maintenant le blé et le maïs. Les moutons paissaient à l'ombre des tours. Mais Néotrantor était là. Sur cet obscur hameau planétaire, jadis noyé dans l'ombre de sa puissante voisine, une famille royale, fuyant devant les torrents de flammes du grand pillage, s'était précipitée et y avait trouvé un dernier refuge. Ils y avaient vécu, survécu, en attendant que s'apaisent les remous de la rébellion. Ils y régnaient encore, souverains fantômes d'un empire morcelé en voie de décomposition. 20 mondes agricoles composaient, en tout et pour tout, leur empire galactique. Dagobert IX, souverain légitime de 20 planètes peuplées exclusivement de paysans renfrognés, soumis à des hobereaux réfractaires, était ainsi le nouveau maître de la galaxie, le roi de l'univers. Dagobert IX avait 25 ans, en ce jour maudit où il était arrivé sur Néotrentor, accompagnant son père. La gloire et la puissance de l'Empire étaient encore bien vivantes dans son esprit. Mais son fils, qui deviendrait peut-être un jour Dagobert X, était né sur Néotrentor. 20 planètes. Voilà quel était tout son horizon. L'aérovoiture décapotable de George Comason était le premier véhicule de ce type à évoluer sur Néotrentor, et à juste titre. Et ce n'était pas seulement parce que Comason était le plus gros propriétaire terrien de la planète. Il y avait à cela bien d'autres raisons. En effet, il avait jadis été le compagnon et l'âme damnée d'un jeune prince de la couronne qui s'impatientait alors sous l'emprise dominatrice d'un empereur encore dans la force de l'âge. Il était aujourd'hui le compagnon, et plus que jamais l'âme damnée, d'un prince de la couronne désormais dans la force de l'âge, qui était parvenu à placer sous sa coupe un empereur chenu qu'il détestait cordialement. Confortablement installé dans le siège passager de son aérovoiture décapotable à la carrosserie nacrée rehaussée d'or et de lumétron, George Comason n'avait pas véritablement besoin de blason pour qu'on le reconnût. Et c'est ainsi qu'il entendait inspecter ses terres, survoler ses arpents de blé qui semblaient onduler sous la brise, ses batteuses, ses moissonneuses, ses métayers, ses mécaniciens agricoles, et qu'il entendait réfléchir à ses problèmes. Aux commandes de l'appareil, son vieux chauffeur, ridé et courbé par le poids des ans, guidait sans à-coups l'aérovoiture à travers les courants ascendants. Il souriait. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit, Inchney ?» demanda George Comason. Les cheveux gris et clairsemés d'Inchney flottaient au vent. Le sourire, qui étirait ses lèvres fines et découvrait déjà une dentition pour le moins complète, s'accentua davantage, et les rides d'expression qui sillonnaient verticalement ses joues parcheminées se creusèrent un peu plus, comme s'il venait tout à coup de se rappeler un très ancien secret dont il eût été l'unique dépositaire. Il répondit d'une voix sifflante, suintant entre ses dents.
« Je m'en souviens, et j'ai réfléchi. »
« Et qu'en penses-tu, Inchney ?» Une certaine impatience perçait. Inchney songea qu'il avait été jeune et beau, jadis, du temps où il était l'un des seigneurs de l'ancienne Trentor. Mais bien vite, il se souvint qu'il était désormais sur Néo-Trentor et qu'il n'était plus qu'un vieillard hideux, survivant par la grâce du châtelain George Comason, et qu'il payait cette grâce en prêtant sur demande les ressources de sa subtilité. Il se permit alors le plus léger des soupirs. Il répondit ensuite, toujours en chuchotant.
« Sire, des visiteurs venus de la Fondation, voilà qui me paraît une fort bonne chose, surtout, sire, si l'on considère qu'ils n'ont qu'un seul vaisseau à leur disposition et qu'il n'y a qu'un seul véritable combattant à son bord. Dans ces conditions, comment ne pas leur faire bon accueil ?»
« Bon accueil ?» demanda Comason sur un ton lugubre. « Peut-être. Mais ces hommes-là sont des magiciens, c'est bien connu. Peut-être ont-ils de grands pouvoirs. »«
Pouille !»
grommela Inchney.
« La vérité s'accommode mal de la distance. La Fondation est bien loin d'ici. Mais ce n'est qu'un monde comme les autres. » Ces citoyens ne sont que des hommes comme les autres. Tirez-leur dessus avec un bon vieux désintégrateur et ils mourront comme les autres. »
Inchney se contentait désormais de maintenir le cap. Un fleuve au cours sinueux miroitait sous leur appareil. Le vieil homme murmura.
« Et qu'en est-il de cet homme dont tout le monde parle, de cet agitateur qui sévirait dans les mondes de la périphérie ?»
« Que sais-tu de cela ?» demanda Comason soudain méfiant.
« Rien, sire !»
répondit le chauffeur.
« Je m'interrogeais, c'est tout. C'était juste une question en l'air. »
Le vieil homme ne souriait plus du tout à présent. Le seigneur n'hésita qu'un instant. Il dit avec une brutale franchise. «
Tu ne poses jamais de questions en l'air, tu le sais bien.
et tu as une façon de te renseigner qui pourrait bien te valoir de sérieux ennuis un de ces jours. Méfie-toi. Mais, soit. Cet homme s'appelle le mulet. Et un de ses sujets est venu ici il y a quelques mois pour affaire. J'en attends un autre, incessamment, pour conclure cette affaire, justement.
Et ces nouveaux venus, ce ne sont pas eux que vous attendiez, peut-être?
Ils n'ont pas les papiers qu'ils devraient avoir.
On a annoncé que la fondation était tombée.
Ce n'est pas moi qui te l'ai dit.
On l'a annoncé,
répéta Inchné sans se démonter.
Si c'est vrai, ce sont peut-être des réfugiés qui ont fui les bombardements. Dans ce cas, pourquoi ne pas les faire prisonniers et les livrer aux mulets en gage d'amitié?
Tu crois? Demanda Comasson avec une certaine hésitation dans la voix.
Sire, si je puis me permettre, il est de notoriété publique que l'amitié d'un conquérant n'a qu'un temps. Devenir son allié, ce n'est jamais que reculer pour mieux sauter. Ce serait là une précaution élémentaire, de la légitime défense préventive en quelque sorte. Nous possédons des psychosondes en parfait état de marche, si je ne m'abuse, et nous avons là quatre cerveaux de la Fondation qui ne demandent qu'à nous aider à le vérifier. Il y a bien des choses à propos de la Fondation qu'il serait utile pour nous de connaître, sans parler du mulet. Ainsi, l'amitié du mulet se ferait, disons, un peu moins envahissante.
Dans le silence de la haute atmosphère, Comasson revint à son idée première. Il frissonna. Et si la Fondation n'était pas tombée, Inchney, s'il ne s'agissait que de fausses nouvelles? Il paraît qu'on a jadis prédit que nul ne pourrait jamais la renverser.
Nous avons passé l'âge de croire les devins, sire.
Et pourtant? Et si elle n'était pas tombée, Inchney, réfléchis. Si elle n'était pas tombée? Le mulet m'a fait de belles promesses.
Il comprit qu'il en avait trop dit et tenta de se rattraper. Ou plutôt, il s'est vanté.
Mais les paroles ne sont rien, seuls comptent les faits.
Seuls comptent les faits, c'est exact. Si tant est qu'il soit avéré,
professa Inchney avec un petit rire silencieux.
Cette fondation à l'autre bout de la galaxie, peut-on seulement imaginer péril plus éloigné?
Il y a toujours le prince, murmura Comasson comme s'il se parlait à lui-même.
Lui aussi traite avec le mulet alors, sire?
Pas tout à fait,
dit Comasson sans parvenir à dissimuler totalement le rictus de contentement qui venait d'apparaître sur son visage.
Pas au même niveau que moi, en tout cas. Mais il devient de plus en plus indépendant, de plus en plus difficile à contrôler. Il est la proie d'un démon. Si je m'empare de ces gens et qu'il les emmène pour son propre usage, car il ne manque pas de perspicacité dans ce domaine, on ne peut pas lui enlever cela.
Je ne suis pas encore prêt à lui chercher querelle,
fit-il d'un air soucieux.
J'ai aperçu ces étrangers quelques instants hier,
annonça soudain le chauffeur aux cheveux gris de manière plutôt inattendue.
C'est une étrange créature que cette femme brune qui les accompagne. Elle a la liberté d'allure d'un homme, et ses cheveux d'ébène semblent accentuer par contraste l'extrême pâleur de sa peau.
Il y avait dans sa voix chevrotante de vieillard comme le souvenir d'une ardeur oubliée qui amena Comasson à se tourner vers lui d'un air surpris. Inchney poursuivit.
« Je crois que le prince ne serait pas ennemi d'un compromis raisonnable. Vous pourriez avoir le reste si vous lui laissiez la fille. »
« Ça, c'est une idée !»
s'écria Comasson, qui venait d'avoir une illumination.
« Oui, ça c'est une idée !»« Inchney, fais demi-tour !»« Et tu sais, Inchney, si tout cela s'arrange comme je l'espère, nous pourrons reparler de ta libération !»
Lorsqu'il rentra,
Comason trouva une capsule personnelle qui l'attendait dans son cabinet. Et son esprit superstitieux vit là une sorte de présage, un signe du destin. La capsule était arrivée sur une longueur d'onde confidentielle. Comason eut un sourire satisfait. L'homme du mulet allait arriver. La fondation était bel et bien tombée. Beïta avait vaguement essayé de se représenter ce à quoi le palais impérial pouvait bien ressembler. Ses visions imprécises, nées de son imagination, ne concordaient pas vraiment avec la réalité, et tout au fond d'elle-même, elle en éprouvait une certaine déception. La pièce était petite, presque nue, ordinaire. Le palais ne soutenait même pas la comparaison avec la résidence du maire sur la fondation. Quant à Dagobert IX... Beïta avait en effet des idées bien arrêtées sur la question de l'aspect physique d'un empereur digne de ce nom. En aucun cas, il ne devait ressembler à un bon vieux grand-père de carte postale, à un vieillard chenu, maigrichon, insignifiant. Et surtout, en aucun cas, il ne devait s'abaisser à servir le thé lui-même, en s'enquérant avec empressement du bien-être de ses visiteurs. C'était pourtant ainsi. Dagobert IX gloussa tout en versant le thé dans la tasse qu'elle lui tendait. « C'est un grand plaisir pour moi, très cher. Voilà qui me change un moment de l'étiquette et des courtisans. Je n'ai pas eu l'occasion d'accueillir des visiteurs de mes lointaines provinces depuis quelque temps maintenant. C'est mon fils qui s'occupe de ces détails depuis que je suis vieux. Vous n'avez pas rencontré mon fils ? Un charmant garçon. Un peu têtu, sans doute. Mais il est bien jeune, que voulez-vous? Une capsule d'arôme, peut-être? Non?
Thoran entreprit de l'interrompre.
Votre Majesté impériale.
Oui?
Votre Majesté impériale. Notre intention n'était pas de venir ici en intrus.
Allons donc. Vous n'êtes pas des intrus. Ce soir, il y aura la réception officielle, mais jusque-là, nous sommes tranquilles, libres comme l'air. Voyons. D'où m'avez-vous dit que vous veniez?
Voilà longtemps, me semble-t-il, que nous n'avons pas eu de réception officielle. Vous me disiez que vous veniez de la province d'Anacréon?
De la Fondation, votre Majesté impériale.
Ah oui, la Fondation. Je me souviens maintenant. Je l'ai fait situer. C'est dans la province d'Anacréon. Je ne suis jamais allé là-bas.
Mes médecins m'interdisent les voyages au long cours.
Je n'ai pas souvenir d'avoir reçu de rapport de mon vice-roi sur Anacréon récemment.
« Comment cela va-t-il là-bas »
conclut-il avec inquiétude.
« Sire, murmura Thoran, je ne suis porteur d'aucune doléance.
Voilà qui est bien. Je féliciterai mon vice-roi. »
Thoran jeta un coup d'œil désespéré à Ebling, dont la voix retentit brusquement.
« Sire, on nous a dit qu'il nous faudra obtenir votre permission pour visiter la bibliothèque de l'Université impériale de Trantor. »
Trantor ?
Répéta l'empereur d'une toute petite voix.
Trantor.
Une expression de douloureuse surprise se peignit sur son visage.
Trantor,
murmura-t-il.
Je me souviens maintenant. Je fais des plans en ce moment pour retourner là-bas avec toute une armada de vaisseaux. Il faudra que vous veniez avec moi. Ensemble, nous anéantirons le rebelle, Gilmer. Ensemble, nous restaurerons l'Empire.
Le vieil homme voûté venait de se redresser. Il parlait d'une voix plus assurée. L'espace d'un instant, il fixa ses interlocuteurs d'un regard plus assuré, puis il cligna des yeux et reprit d'une toute petite voix.
Mais Gilmer est mort. On dirait que je me rappelle. Oui. Oui, Gilmer est mort. Trantor est morte. Un moment, il m'a semblé. D'où avez-vous dit que vous veniez?
C'est vraiment un empereur?
Murmura Magnifico à l'oreille de Beïta.
Je croyais que les empereurs étaient plus grands et plus sages que les hommes ordinaires.
Beïta lui fit signe de se taire. « Si votre majesté impériale, dit-elle, voulait bien signer un permis nous autorisant à aller sur Trantor, cela servirait grandement la cause commune. »
« Sur Trantor ?» demanda l'empereur en fixant sur la jeune femme un regard inexpressif. Il semblait ne plus rien comprendre à l'entretien.
« Sire, le vice-roi d'Anacréon, au nom de qui nous parlons, vous fait savoir que Guilmer est encore en vie. »«
En vie ? Il est encore en vie ?»
tonna Dagobert.
« Où ? Ce sera la guerre !»
« Votre Majesté impériale, on ne doit pas le révéler encore. On n'est pas très sûr de l'endroit où il se trouve. Le vice-roi nous envoie pour vous en informer. Et c'est seulement sur Trantor que nous trouverons peut-être où il se cache. Alors,
oui, oui, il faut le trouver. »
Le vieil empereur s'approcha du mur et pressa d'un doigt tremblant la petite cellule photoélectrique.
« Mes serviteurs ne viennent pas. »
marmonna-t-il après avoir vainement attendu.
« Je ne peux pas les attendre !»
Il griffonna quelque chose sur une feuille blanche et termina par un dé très surchargé.
« Guilmer va savoir ce que c'est qu'un empereur s'il l'a oublié. D'où venez-vous donc ? D'Anacréon ? Comment ça va-t-il là-bas ? Le nom de l'empereur est-il respecté ?»
Beïta lui prit le papier des mains sans difficulté. « Votre Majesté impériale est adorée du peuple. Votre amour pour la population est bien connu.
Il faudra que je rende visite à mon bon peuple d'Anacréon. Mais mon médecin a dit...
Je ne me souviens jamais de ce qu'il dit, mais... »
Il releva soudain la tête. Ses yeux gris, délavés par les ans, brillèrent soudain d'un éclat renouvelé.
« Vous disiez quelque chose à propos de Guilmer ?»
« Non, votre Majesté impériale. »«
Il ne doit pas avancer davantage. » »« Retournez dire cela à votre peuple. »« Trantor doit tenir. »« Mon père commande la flotte à présent. »« Cette vermine de Guilmer finira congelée dans l'espace avec sa horde de régicides. »
Il se laissa tomber dans un fauteuil et, une fois de plus, son regard redevint vague.
« Qu'est-ce que je disais ?»
Thoran se leva et s'inclina très bas. « Votre Majesté impériale a été bonne avec nous, mais le temps qui nous était imparti pour une audience est terminé.